Voilà, rebonjour, je me réjouis d'être avec vous pour cette deuxième session. Ce matin, on a parlé de façon générale du problème du mal et de la souffrance, en partant de cette question que se pose bon nombre de nos contemporains, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi le mal, la souffrance, l'injustice. On a vu qu'il n'y avait pas que les chrétiens qui devaient répondre à cette question, que le mal est un problème pour tout le monde, qu'il faut y répondre, et que la réponse de la Bible, eh bien, c'est que le mal et la souffrance vient de quelqu'un qui a été créé par Dieu, en l'occurrence le diable, les démons, mais aussi nous en tant qu'êtres humains qui nous rebellons contre Dieu. C'est ça qui fait que le mal apparaît. Et puis à la fin, on a commencé à parler du sens de la souffrance et comment Dieu veut aussi l'utiliser pour notre sanctification, pour nous édifier, pour nous éduquer. On a vu comment Dieu aussi répondait à la souffrance au travers de son plan de rédemption et de l'œuvre de Christ qui est au cœur. Ce soir, on va s'intéresser, quand la souffrance nous frappe, comment est-ce qu'en tant que croyants, nous pouvons réagir, comment nous faisons face à la souffrance. Et en fait, si on devait chercher des réponses dans la Bible, je pense que même si on a beaucoup d'éléments dans le Nouveau Testament, là où on va trouver beaucoup, beaucoup d'exemples, c'est dans l'Ancien Testament, et en particulier dans les livres dits de sagesse, à la littérature, toutes ces réflexions qui viennent de circonstances vécues par d'autres croyants sous d'autres temps, mais qui ont vécu différentes expériences de vie. Et si vous regardez et que vous méditez les livres notamment de l'Ecclésiaste, les livres des Psaumes, le livre de Job, aussi le livre des Lamentations de Jérémie, vous trouverez souvent des perles qui aident aussi à trouver du sens dans nos propres souffrances. Et ce soir, on va se concentrer en particulier sur le livre de Job, la souffrance, on pourrait dire, du juste, en tout cas de celui qui n'a rien fait pour souffrir et qui se fait frapper. On parlera aussi un tout petit peu du livre des Lamentations, qui est le versant opposé. Hein. Job traite de la souffrance de l'innocent, les Lamentations traitent de la souffrance du coupable, de celui qui mérite de souffrir, mais qui doit quand même vivre avec, et parfois nous pouvons vivre cela. Et je ne vais pas parler des psaumes, mais il y aurait beaucoup à dire aussi, et je vous encourage, si vous passez par la souffrance, peut-être à rouvrir aussi le livre des psaumes, et à méditer ces prières, où bon nombre ont été écrites dans des situations où des croyants ont souffert. L'an dernier, dans notre église, on a fait toute une série sur les psaumes, et on s'est rendu compte que ça faisait énormément de bien à ceux qui étaient dans l'épreuve, de réaliser que parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est parler à Dieu. Mais c'est déjà beaucoup de faire cela, même quand c'est pour exprimer notre colère, notre peine, notre incompréhension. Et nombreux sont les psaumes qui font ça, et ça passe par là, on le verra aussi avec Job. Alors le livre de Job, on a coutume de dire que c'est le plus vieux livre de la Bible. Le livre de la Genèse a probablement été écrit plus tard. Job se place dans la haute antiquité, à un temps où le peuple d'Israël n'existe même pas encore. Il s'agit d'un des fils de l'Orient, nous dit le texte. Et c'est un livre qui a souvent interrogé les commentateurs. Certains se sont même demandé si ce n'était pas une sorte de pièce de théâtre, de fiction, tellement le récit semblait exagéré ou improbable sur certains points. Moi, je fais plutôt part de ceux qui pensent que c'est une histoire vraie, bien sûr, qui a été mise sous forme poétique, qui a été arrangée pour prendre la forme que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas qui est là et qui souvent vient nous rencontrer dans les expériences que nous pouvons avoir de la souffrance, en particulier quand elle semble injuste, brutale, non justifiée, et qu'elle nous frappe. Et la réalité, c'est que des fois dans nos vies, on est face à des situations complètement incompréhensibles. Vous pouvez avoir une vie qui va complètement bien, et du jour au lendemain, la souffrance vient frapper à votre porte, et tout s'écroule. Et probablement que certains qui ont vécu plus longtemps que moi auraient beaucoup de choses à raconter de ce type-là, soit parce que vous l'avez vécu vous-même, soit parce que d'autres l'ont vécu. Mais déjà, dans ma courte vie, j'ai eu l'occasion parfois de voir des choses comme ça, la souffrance qui frappe du jour au lendemain. Je me souviens quand on était jeunes mariés, on avait une famille de chrétiens qui habitaient dans la même résidence que nous. Et puis un jour où Rebecca était à la maison, les portes-fenêtres étaient ouvertes. Et tout à coup, Rebecca entend la jeune femme hurler. Et elle se demande ce qui se passe, et en fait son mari venait de se couper la main avec une scie circulaire, et il est en train de faire la barrière de son jardin, et du coup, en l'espace de 5 minutes, la vie qui bascule. Il était pompier de Paris, il s'était recyclé dans les pompiers en région, Et voilà, aujourd'hui, il est reclassé dans un bureau. Et vous imaginez tout le traumatisme qui a suivi. Et ça a eu des circonstances terribles, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ne vont plus dans une église, par exemple. Vous voyez des choses comme ça qui arrivent. Vous pouvez être dans le ministère, vous êtes en voyage. Et puis alors que vous vivez beaucoup de joie dans le service, régulièrement, vous apprenez qu'un enfant est à l'hôpital. Et tout à coup, on vous apprend que c'est votre femme qui allait très bien, qui tout à coup va mal, et puis qui est hospitalisée. Et c'est des choses qu'on peut vivre. Et qui sont durs. Vous avez la perte d'un enfant qui tombe soudain, et on a un jeune couple encore dans l'église qui a vécu ça récemment, et c'est partie des choses qui tombent. Et toutes ces choses qui nous assaillent, qui nous frappent, des jeunes qui partent du jour au lendemain d'un cancer foudroyant, et des choses comme ça qu'on doit vivre, et au fond de nous, on se dit, mais pourquoi ? C'est quoi le sens de tout ça ? Pourquoi est-ce que ça me tombe dessus, comme ça ? Et je crois que le livre de Job... Et là, pas pour nous donner toutes les réponses, mais au moins pour nous permettre de méditer, de réfléchir sur ces choses, d'inspirer nos réflexions. Et c'est de la littérature de sagesse, et le but, c'est simplement qu'en la lisant, ben, nous puissions développer aussi notre propre sagesse et penser de façon plus sage, selon les principes de Dieu et la manière dont Dieu voit les choses, et qui sont souvent pas simplement noir ou blanc, mais parfois beaucoup plus complexes. Que ce qu'on veut bien croire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les réponses non plus, mais que ça nous aide à réfléchir. Job est un homme qui avait connu aussi des choses terribles, hein, qui lui sont arrivées depuis le début du livre, et c'est ce qu'on voit au début. On va se concentrer beaucoup sur les chapitres 1 et 2, et on lira au fur et à mesure. Si vous regardez dans le livre de Job, au chapitre 1, on va commencer avec les versets 1 à 5. D'abord, on voit cet homme qui est présenté, et le texte va insister sur le fait à quel point il est bon et à quel point il est juste. Et le texte nous dit ceci, il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, ils envoyaient une invitation à leurs trois sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Le texte démarre avec une situation idyllique, un croyant modèle, un homme dont il nous est dit qu'il était intègre et droit, donc ce qu'il pensait correspondait à ce qu'il faisait, et il brillait par sa droiture, il craignait Dieu, il s'écartait du mal, il le fuyait sous toutes ses formes. Et quand on voit dans la suite du texte, à un moment, Job va décrire tout ce que ça impliquait, et on voit que c'était un homme d'une extrême droiture, qui faisait droit aux pauvres, à l'orphelin, qui se gardait dans la pureté. Et on se dit, mais si la souffrance devait frapper quelqu'un... De façon juste, Job n'est pas le candidat. Quelqu'un qui est tellement bon, c'est pas normal qu'il souffre. Sa réputation est irréprochable. Sa crainte et son respect pour Dieu gouvernent tout ce qu'il fait. Et à cause de cela, c'est un homme qui est béni. Dieu le bénit, il est honoré par tous. C'est le plus honorable des fils de l'Orient. Il a de grands biens, etc. Il a du succès dans tous les domaines. Et on voit que sa crainte va même au-delà de sa propre personne, sa crainte pour Dieu, puisqu'il a à cœur aussi ses enfants, et il cherche à prier pour eux, à les sanctifier, de peur qu'ils puissent s'égarer. Donc c'est quelqu'un de prévoyant, et qui ne cherche pas simplement la justice pour lui-même, mais qui aussi la communique à d'autres. Un homme extrêmement attaché à l'honneur de Dieu dans sa vie et dans celle des autres. Et puis, le texte continue, on va sauter le passage qui suit, on reviendra dessus plus tard. On continue avec Job au verset 13. « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânes passaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. » Situation terrible, hein, n'est-ce pas ? Cet homme qui, en une journée, il est en train de perdre tous ses biens, son entreprise, ses enfants, et puis à la fois de différentes causes. Dans deux cas, ce sont les méchants. Et puis dans deux cas, c'est simplement des catastrophes naturelles, hein, le feu du ciel, une tornade qui lui tombe dessus. Et peut-être que vous avez déjà vécu ça, on a parfois l'impression qu'il y a des saisons dans nos vies où les mauvaises nouvelles n'arrivent pas seules. Tout à coup, il y en a une qui arrive, et puis poum, on prend une première cartouche, et puis dans les semaines qui suivent, poum, poum, poum. Et au bout d'un moment, on dit, ça fait pas un peu beaucoup là ? Et vous avez au même moment un décès, vous avez des soucis financiers, vous avez des problèmes au travail, vous avez un enfant qui est gravement malade. Et tout ça s'accumule. Et vous enchaînez, et vous dites, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ça va continuer ? Et Job est en train de vivre ça, et on voit qu'on ne peut pas donner de cause. On aurait pu dire, bon, les méchants, ils vivaient dans un coin, il y avait des méchants, il aurait mieux pu protéger les troupeaux, mais le feu du ciel, la tornade, que voulez-vous faire ? Ça tombe dessus. Ce sont des catastrophes naturelles. En anglais, on appelle les catastrophes naturelles les faits de Dieu, the God facts. Hein, et de dire, mais finalement, qui d'autre que Dieu peut contrôler ces choses-là ? Et c'est cela dont il s'agit. Ça vous tombe dessus, vous n'y pouvez rien. C'est un coup du ciel. On dirait chez nous. Et on se dit, mais quel est le sens de tout ça ? Et le texte va nous donner des réponses que ce pauvre Job n'a pas. Et nous, on a de la chance parce qu'on a le livre qui a été après et qui donne d'autres éléments. Et regardez ce qui est en train de se passer entre-temps, entre l'état idéal du début et ce qui arrivait à Job. Regardez au verset 6. Les fils de Dieu, donc il s'agit des anges, hein, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu, Satan ?» D'où viens-tu ? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Scène incroyable, hein, cet échange entre Dieu et Satan. Satan qui a passé du temps à parcourir la terre. Et tout à coup, Dieu met devant lui, comme un trophée, quelqu'un qui lui plaît beaucoup. « As-tu vu mon serviteur Job ?» Vous avez vu, c'est Dieu qui lance la discussion sur ce pauvre Job qui n'a absolument rien demandé. Il n'y a personne sur lui, comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. On a presque l'impression que c'est un bijoutier qui croise un voleur de diamants et qui dit « Tu as vu le fleuron de mon magasin ? Il est beau, hein, n'est-ce pas ?» Et ça paraît bizarre. Le texte ne dit pas pourquoi Dieu fait cela. On sait que Dieu ne dit jamais « Oups !» Il n'est jamais dépassé par les circonstances. Il n'a pas fait de bêtises. Mais Dieu est manifestement fier de Job, qu'il le craint. Dieu aime Job de manière très profonde, et il est fier de lui, et simplement il le présente. Et Satan, lui, n'est pas du tout impressionné, et il va insinuer qu'en fait Job n'est absolument pas un modèle de crainte de Dieu. Ce que Satan va dire, c'est en fait si Job te craint, c'est tout simplement parce que tu le bénis trop. C'est évident. Regarde tout ce qu'il a. Je veux dire, c'est facile de craindre Dieu quand on a autant de biens que lui. Mais maintenant, si tu le touches, que tu enlèves un peu la richesse, la santé, la prospérité, boah, il va être comme tous les hommes. Hein. Il va se retourner contre toi et dire, mais si Dieu est comme ça, à quoi bon croire en lui ? Et Dieu aurait pu dire, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je connais le cœur de mon serviteur Job et ça me suffit. Et Dieu aurait pu faire ça. Mais Dieu va faire autrement et en fait, il va choisir d'avoir une victoire ouverte sur Satan. avec un test qui va démontrer que Dieu a raison sur ce qui est dans le cœur de Job. Et le test va montrer que dans le cœur de Job, eh ben, Dieu lui-même a plus de valeur et plus de place dans son cœur que n'importe lequel de ses biens, ou n'importe lequel des membres de sa famille, puisqu'il perd ses biens et sa famille. Est-ce que vous comprenez déjà l'enjeu qui est en train de se jouer ? En fait, on a la partie visible, où si on était à la place de Job, on se dirait « mais je ne comprendrais absolument rien à ce qui m'arrive ». Je suis en train de dire pourquoi. Et l'auteur nous montre un côté caché et qui est en train de réaliser qu'alors que Job est au milieu de la souffrance, et ben en fait, sa vie est en réalité une sorte de champ de bataille entre d'un côté Dieu et de l'autre côté Satan et ses légions. Et Job est le champ de bataille au milieu de ce combat. Et l'enjeu dont il est question, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que Job cherche la gloire de Dieu plus que tout, ou bien est-ce qu'il cherche les bénédictions que Dieu lui procure plus que la gloire de Dieu ? Arrivent les malheurs, Job perd toute sa richesse, ses enfants, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Job donne cette réponse alors qu'il se lève, il déchire son manteau, un signe de deuil, de tristesse, il se rase la tête, il se prosterne, donc il continue à adorer Dieu, et il dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère ». Nu, j'y retournerai, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'auteur ajoute, en tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Des fois qu'on se dirait, quand même, dire que c'est Dieu qui a enlevé ça, on a vu que c'était le diable. Hein. Non, Job dit, tu as donné, tu as repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout ça, il ne pécha pas, n'attribua rien de scandaleux à Dieu. On l'a chanté, hein. Tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. C'est moi vous dire que quand vous venez de perdre vos enfants, vos biens, votre entreprise, vos serviteurs, c'est plus difficile à dire. Et pourtant, Job est là et il le dit. Et il se passe finalement ce que Dieu avait prévu, quelque chose qui a énormément de valeur. Job est en train de dire « Je ne crains pas Dieu parce qu'il m'a donné des beaux enfants. Je ne crains pas Dieu parce qu'il m'a donné de l'argent et des biens. » Je ne crains pas Dieu à cause de tout cela. Je crains Dieu parce qu'il est Dieu. Il est l'Éternel qui a donné et qui a ôté. C'est l'Éternel, que son nom soit béni. Dieu 1, Satan 0. C'est ça l'enjeu, hein ? C'est une bataille qui se passe derrière. Et il scelle la première victoire. Et alors, tout à coup, alors que Satan avait tort, eh bien, l'enjeu n'est pas fini. Hein. Ce que Dieu cherchait a été accompli. On voit que la valeur immense de Dieu est proclamée. Mais regardez ce qui se passe ensuite, au bout de quelques temps, au chapitre 2, verset 7. Satan se retira de la présence de l'Éternel, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Maintenant, tout à coup, ce pauvre Job qui n'avait pas assez de malheur, voilà qu'il tombe malade et qu'il est couvert de cet ulcère de la tête jusqu'aux pieds. On rigole avec ma femme parce que la dernière fois que j'enseignais sur ce texte, c'était au CFB à Tin Ranch, où on m'avait demandé de faire un cours sur le problème du mal et de la souffrance. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai perdu un ordi qui a craché, qui n'était pas censé cracher. Et dans la foulée, j'ai eu une sorte de maladie sur la peau, et avec une espèce de mycose qui commence à me gratter. Et le médecin m'a donné un antibio, j'ai fait une allergie à l'antibio. Je me suis réveillé le lendemain en me grattant de partout. Et on en a rigolé pendant des mois en se disant c'est dangereux de prêcher Job. On commence à avoir des trucs bizarres qui se passent. Donc, voilà, si vous vous grattez cette semaine, c'est pas de ma faute. Hein, c'est peut-être qu'il est en train de vous arriver la même chose qu'à ce pauvre Job. Job, il se remet tout juste d'avoir perdu sa richesse et ses enfants. Et voilà tout à coup qu'il est malade avec cet ulcère. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a encore bien pu se passer ? Et là encore, l'auteur a anticipé, hein, et juste avant, il donne les réponses. Regardez le début du chapitre 2. Les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel. Satan va aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel, à nouveau, dit à Satan. D'où viens-tu ? Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, à nouveau, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu, s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Tu m'insistes à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Et voilà donc pourquoi notre pauvre Job se retrouve à se gratter de la tête aux pieds sur la cendre avec un tesson. Horrible, n'est-ce pas, cette situation. Satan est à nouveau en train de dire, non, mais c'est trop facile, t'as juste enlevé ses biens. Tant que tu touches pas sa vie, il te donnera tout ce qu'il a. Et maintenant, touche-le et tu vas voir ce qui se passe. Il va te rogner directement. Satan ne s'avoue pas vaincu. Il insiste, il va plus loin. Et Dieu accepte. Et à nouveau, Job va réagir et regardez ce qui se passe au verset 10. Sa femme commence à craquer. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais il lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je pense que quand Satan a dû entendre la femme commencer à dire « Maudit Dieu et meurt », il a dû dire « Ah ! Ah ! » Mais Job réagit « Eh non, eh non. Tu es une femme insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Dieu 2, Satan 0. Confiance de Job, solide comme un roc. Job est totalement confiant en la souveraineté de Dieu. Quoi qu'il m'arrive, Dieu sait ce qui se passe, Dieu est Dieu, et je continuerai à le suivre. Je ne le laisserai pas tomber, et nous ne devrions pas laisser tomber Dieu non plus quand nous passons dans ce genre de situation. Et ce qui est beau, c'est que Job, lui, ne sait pas du tout ce qui se passe là-haut. Lui, il fait confiance, entre guillemets, à l'aveugle. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? On a observé le texte, sorti les éléments saillants, les éléments clés. Je pense qu'il y a au moins quatre grandes vérités théologiques qu'on peut tirer de ce texte et qui nous aident à comprendre, quand nous sommes le champ de bataille de la souffrance, qu'on peut en tirer dans nos vies. La première vérité qu'on voit, c'est que le but de Satan est de détruire notre joie en Dieu. Satan ne veut pas que nous nous réjouissions en Dieu. On peut se réjouir de n'importe quoi d'autre, de toutes les idoles du monde, de nous-mêmes, c'était le début de la chute, être nos propres dieux. Tant que Dieu n'est pas notre sujet de joie suprême, il est content. Et pour ça, il va habituellement utiliser deux armes. La première arme qu'il va utiliser n'est pas la souffrance, c'est celle du plaisir. Et l'idée, c'est que quand nous sommes dans le bien-être et dans le plaisir, eh bien, nous avons tendance à croire que Dieu est superflu. Pourquoi se réjouir en Dieu? Puisqu'il y a déjà tellement de choses dont je peux me réjouir. Et malheureusement, c'est quelque chose qui frappe nos sociétés occidentales. J'ai pas besoin de Dieu, ma vie va très bien. Dieu, c'est pour les gens qui vont pas bien, qui ont des problèmes. C'est ce que me disait un de mes collègues. Tout va bien. Je suis marié, j'ai de beaux enfants, une jolie maison, une belle carrière. Pourquoi voudrais-tu que j'ai besoin de Dieu? C'était lui son propre Dieu. Deuxième arme de Satan, eh bien, quand le plaisir ne marche pas, c'est la douleur. Satan n'a pas réussi à enlever la crainte de Dieu dans les jours de plaisir et de prospérité. Et du coup, il attaque la joie de Job par la souffrance qui est centrée sur Dieu. Mais il va échouer à nouveau. Et dans nos vies, Satan poursuit le même objectif, aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça que le livre des Proverbes disait avec « Sagesse ne me donne ni pauvreté ni richesse ». De peur que dans la richesse, je t'oublie, que dans la pauvreté, je te renie. Il y a ces deux tensions, et Satan essaye de nous attaquer par ces différents moyens. Et il voudrait que le trésor qui est Dieu soit remplacé par d'autres choses. Deuxième vérité qu'on peut déduire de ce texte, c'est que Dieu, au contraire, lui veut que sa valeur soit élevée dans la vie de son peuple. Le grand but de Dieu, depuis la création et la rédemption et jusqu'à la fin, c'est que nous puissions connaître et contempler l'infinie grandeur de sa gloire. Et pourquoi? Parce que, comme on l'a dit ce matin, il n'y a que ça qui puisse nous combler ultimement. Et on le voit bien, depuis la chute, l'homme a le cœur vide, il essaye de le remplir de toutes sortes de choses, mais il n'y arrive pas. Et c'est Pascal qui disait que c'est un vide qui est en forme de Dieu. Et C.S. Lewis disait, si je vois dans ce monde rien qui ne peut combler mes aspirations, je dois à un moment en conclure que je suis fait pour un autre monde. Et c'est la réalité de ce qu'on a vu ce matin. Nous n'étions pas faits pour ce monde déchu, rempli du péché. Et c'est à cause de nos fautes ou celles de nos parents, mais bien sûr nous y joignons les nôtres, que nous sommes dans cette situation. Dieu, lui, veut restaurer cela. Il veut élever sa valeur dans la vie de son peuple. Il veut que nous reconnaissions que la vraie vie, c'est lui. C'est lui. Et pour refléter sa valeur, eh bien, ce qu'il a choisi, eh bien, c'est la joie de son peuple. Quand le peuple de Dieu est joyeux en Dieu, il est en train de témoigner de la valeur de Dieu. D'accord ? Quand j'ai la joie en Dieu par-dessus toute autre chose, je suis en train de dire, rien n'a plus de valeur que Dieu. Rien ne peut prendre sa place. Et forcément, c'est ça que Satan cherche à attaquer, puisqu'il ne veut pas que la gloire de Dieu soit reconnue. D'accord ? Donc Satan veut détruire notre joie en Dieu, et Dieu, lui, veut élever sa valeur dans son peuple, et sa valeur est élevée quand nous sommes joyeux en lui. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous avez cet impératif qui revient notamment chez Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est un danger pour les chrétiens d'aujourd'hui, dans notre monde postmoderne où on a tellement de distractions, de sujets de joie. Sommes-nous encore vraiment des disciples de Jésus, des fidèles croyants en Dieu, si nous adorons Dieu simplement d'une façon intellectuelle, mais que notre joie est dans toute autre chose dans ce monde? Ça pose une vraie question. Si on vous donne tous les plaisirs du monde et qu'on enlève Jésus, êtes-vous satisfait? Et je crains des fois que notre société consumériste, matérialiste, etc. d'aujourd'hui essaye de nous produire ou de nous vendre un paradis où il y aurait tout sauf Jésus. Et parfois, nous pourrions presque en être satisfaits. Et malheureusement, certains pans de l'Église se sont égarés dans ce qu'on appelle l'évangile de prospérité, où on te dit, si tu crois en Dieu, tu as la santé, tu as la joie, tu as la gloire, tu as la richesse, tu as toutes ces choses. Et on se dit, mais y a-t-il encore Jésus dans ce paradis-là, une fois qu'il y a tout ça, si c'est ça le but? Et Dieu, lui, a un autre but. Il veut qu'on comprenne que c'est lui le cœur de tout. C'est lui qui doit être notre vraie joie. Troisième vérité qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu accorde à Satan un pouvoir limité pour nous attaquer. Et la plupart des souffrances que nous vivons, bien sûr, sont des conséquences de la chute, mais viennent aussi de là, de Satan et de ses démons et de ses anges et des créatures méchantes qui simplement nous oppressent. Et c'est ce qu'il dit au verset 12, « Voici tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement ne le touche pas. » Et au chapitre 2, verset 6, « Il est en ton pouvoir, maintenant son corps, seulement épargne sa vie. » Donc c'est intéressant parce qu'à la fois Dieu donne le pouvoir, mais à chaque fois il fixe les limites de la puissance de Satan à nous infliger de la souffrance. Donc on n'est pas face à un anti-Dieu comme on l'a dit ce matin. Satan est une créature, Dieu lui donne du pouvoir, mais il est toujours complètement limité aux bornes que Dieu donne. Notre Dieu n'est pas frustré par la puissance et par la subtilité de Satan. Il tient absolument tout. Satan ne peut pas faire un geste sans la permission du Dieu Tout-Puissant. Il peut rugir comme un lion, mais c'est un lion en laisse. Et Dieu le tient ou le lâche selon son propre plan souverain. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit comprendre, en particulier quand on a la souffrance qui se déchaîne contre nous. Le diable n'a jamais plus de pouvoir que ce que Dieu lui donne. Et on doit être vraiment prudent avec les théologies qui nous feraient croire que certaines choses échappent au contrôle de Dieu. Parce que si vous croyez cela, alors au jour de la souffrance, vous êtes vraiment, vraiment mal. Parce que si les choses échappent au contrôle de Dieu, comment pouvez-vous être certain qu'à ce moment-là, Dieu peut encore quelque chose pour vous? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que même le diable, la créature mauvaise la plus puissante qu'il existe dans l'univers, est complètement limitée, cadrée, bornée par Dieu, et ne peut rien faire sans sa permission. Un théologien, William Henry Green, cité par John Piper, disait ceci, « Malgré toute sa haine de Dieu et sa rancune contre son peuple, il ne peut se libérer du contrôle souverain qui le lie au service de Dieu. Dans tous ses desseins blasphématoires, il est malgré lui en train de faire le travail de Dieu. Dans ses efforts rebelles pour détrôner le Très-Haut, il lui soumet en fait son hommage. » N'est-ce pas incroyable, hein ? Cette créature totalement mauvaise qui agit de son propre gré, en fait, se retrouve n'être qu'un instrument au gré de la volonté de Dieu, puisqu'il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. En remuant ciel et terre pour accomplir la perdition des croyants, en réalité, Satan les combat, mais à la fin, c'est la gloire de Dieu qui ressort. Il est plein d'amertume et de malice, Et pourtant, malgré tout ça, il est contraint de être et de faire ce qu'il rejette le plus, d'être utile au plan de la grâce de Dieu. Et c'est incroyable, finalement, les actions aussi mauvaises de Satan, à la fin, ont servi l'intérêt de Dieu. Et Satan est un contre-cœur, hein, un instrument qui est donné par Dieu dans son plan glorieux et qui va produire à la fin à ce que toute chose concourt au bien de ceux qui veulent hériter le salut. Et donc ça, je crois que c'est vraiment important de réaliser cela. Oui, Dieu lui donne un pouvoir pour nous faire du mal, mais ce pouvoir est limité et on ne devrait pas ignorer la présence du diable et de ses démons, mais on ne doit jamais la surestimer. Et on ne devrait pas être constamment en train de s'inquiéter qu'est-ce que le diable va me faire ou quoi que ce soit. Son pouvoir est totalement limité. Il est maîtrisé par Dieu. Et pas simplement après la croix. Hein. Là, on est longtemps, longtemps, avant même le peuple d'Israël et tout ça. Il est déjà complètement limité, contrôlé. Et donc, ça nous amène à une quatrième vérité. C'est que si Dieu tient Satan et le borne complètement, eh bien, finalement, l'œuvre de Satan est in fine l'œuvre de Dieu qu'il permet. Et c'est quelque chose qui est dur à accepter au premier abord, mais pourtant, c'est exactement ce que Job va dire deux fois. Regardez le chapitre 1, verset 21. « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et on se dit, mais Job est en train de dire une bêtise. C'est Satan qui a enlevé. C'est Satan qui a arraché. Mais non, Job dit bien « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris ». Et l'auteur ajoute, pour que nous soyons bien convaincus que Job ne dit pas de bêtises, « En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu ». Et puis, une deuxième fois, parce que ça ne suffisait pas que Job le dise une seule fois, regardez ce qu'il dit à nouveau. Verset 10, chapitre 2, « Quoi, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » A-t-on le droit de dire que le mal vient de Dieu ? Pas directement. Mais pourtant, parce que Dieu contrôle tout, eh ben Job peut dire sans péché à la fin, ces choses qui m'arrivent, in fine, elles sont voulues par Dieu. Elles ne sont pas selon son cœur profond, c'est pas la morale de Dieu de faire du mal aux gens, mais dans sa volonté souveraine qui contrôle tout ce qui arrive dans ce monde, Dieu voulait, pour des raisons qui lui appartiennent, que Job vive tout cela, et c'est pour ça qu'il a laissé Satan le faire. Si Dieu ne le voulait pas, il ne se passait rien. C'est Dieu qui donne toute la permission. Et l'enjeu à la fin, c'est que Satan est vaincu et c'est que Dieu est glorifié. C'est quelque chose qui est dur, parce que quand nous sommes dans nos souffrances, on se dit, mais si je suis là, c'est que Dieu permet ça, et donc d'une certaine façon le veut, même s'il ne prend pas plaisir à ce qui m'arrive d'un point de vue moral. Mais ultimement, ça arrive parce que Dieu contrôle tout et laisse cela arriver. Il y a quelque chose qui, à la fois, nous trouble, mais qui pourtant est une profonde consolation pour le chrétien en toutes circonstances. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en fait, nous vivons constamment dans la bulle de la souveraineté de Dieu qui nous protège de tout ce qui pourrait nous arriver. Et si Dieu ne nous protégeait pas, probablement qu'il nous arriverait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qui nous atteint souvent. Et de temps en temps, pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours, eh bien Dieu accepte que cette sphère de protection qui est autour de nous, eh bien des choses passent à travers et viennent nous toucher. Et c'est pour ça que parfois nous avons des épreuves qui arrivent. Et ces épreuves peuvent être dues à des hommes méchants, elles peuvent être dues au diable et à ses démons, mais in fine, c'est Dieu qui dans sa grâce permet que cela passe le filtre de sa souveraineté et nous atteigne. Et pourquoi ? Pour différentes raisons que nous avons vues ce matin, pour nous discipliner, pour amener notre foi à grandir, pour faire éclater sa gloire dans nos vies, même si nous ne le voyons pas au premier abord, pour que, à la fin, un jour, les circonstances les plus pénibles de nos vies contribuent à faire de cette grande fresque éclatante de la gloire de Dieu le plus beau récit dans lequel nous-mêmes nous dirons « Waouh ! Quelle gloire ! Quelle richesse insondable !» Et c'est ce qui fait que Job souffre. C'est ce qui fait que Jésus a été trahi et renié. C'est ce qui fait que Joseph a été vendu comme esclave. Mais à la fin, Dieu a gagné dans tout cela. Oui, Dieu n'était pas pour, moralement, que les frères vendent Joseph en esclave. Il n'approuvait pas les choix d'Hérode et de Pilate. mais pourtant, ça faisait partie de sa volonté souveraine. Et donc nous, l'enjeu de tout ça, eh bien c'est comme Job, face à la souffrance, face au désespoir quand tout s'écroule, eh bien c'est de s'accrocher à la souveraineté de Dieu. Et de dire, dans ma souffrance, je dois croire à un moment que Dieu est totalement souverain et que même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, je continuerai à dire qu'il a plus de valeur que tout et qu'il est suffisant. Et quand je fais confiance à Dieu de cette manière-là, eh bien je remporte cette victoire dans ma souffrance qui fait que Satan est vaincu et que le nom de Dieu est exalté. Et je pense que c'est ce que Pierre voulait dire quand il a dit dans 1 Pierre au chapitre 5 et au verset 6, au verset 8, Pierre disait aux croyants, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Qu'est-ce que Pierre voulait dire quand il disait « Résistez au diable, ferme dans la foi ». Ça veut dire de dire, tu vois Satan, tu peux prendre mes biens, tu peux prendre ma vie, tu peux agir comme il te plaît, la réalité, c'est que ma foi restera en Dieu. Parce qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il a déjà gagné à la croix, et qu'un jour sa victoire sera totale. Alors c'est sûr, en attendant, je souffre. Mais je choisis de garder confiance dans la souveraineté de Dieu. Et c'est là où nous remportons la victoire sur le diable et où nous pouvons tenir. Ce qui fait que Job gagne, c'est justement que sa foi reste ferme en Dieu. Et lorsque nous faisons cela, eh bien le ciel crie la victoire de Dieu et Satan est vaincu. Et Pierre ajoutera ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Vous avez vu, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu? On a du mal avec ça. Hein, la volonté de Dieu, peut-être que nous souffrions. Et là-dedans, nous sommes appelés à remettre notre âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Nous pouvons remporter la victoire dans nos souffrances en nous appuyant sur la souveraineté de Dieu, de telle sorte que Satan est vaincu et que le nom de Dieu est exalté. Alors, quelles applications de cela pour nous? Bien, la première chose, c'est qu'on devrait rejoindre Job là-dedans et affirmer de tout notre cœur la souveraineté totale de Dieu. Et de dire comme le psaume, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Ou comme Daniel, « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, « Que fais-tu ?» Et je crois que des fois, nous résistons à cette idée de la souveraineté de Dieu parce que ça dépasse notre compréhension intellectuelle. Pourtant, le jour où nous capitulons et nous disons « Même si je ne comprends pas, Seigneur, j'accepte que tu es souverain, que tu contrôles toutes choses et que tout ce qui m'arrive in fine, peu importe quelles soient les causes secondaires, fondamentalement, c'est voulu par toi et ça fait partie de ton plan. » Ça ne résout pas toutes nos questions, mais je vous assure que ça vous donne une paix incroyable. Pourquoi ? Parce que vous dites « Le Dieu qui est souverain et qui contrôle chaque détail de ma vie, même les pires, c'est fondamentalement un Dieu qui est bon, qui veut mon bien, qui m'aime, qui est puissant et qui me garde jusqu'au bout. » Et du coup, je sais que ce qui m'arrive n'est pas là pour me détruire. Dieu ne veut pas me tuer, il veut mon bien à la fin. La deuxième chose qu'on devrait appliquer à nos vies, c'est tout en croyant fermement à la souveraineté de Dieu, de ne pas hésiter à laisser les larmes couler librement lorsque le malheur arrive. Croire dans la souveraineté de Dieu, ça ne veut pas dire « je vais bien, tout va bien ». Quand ça fait mal, ça fait mal. Et Job est un exemple de ça. Job n'est pas en train de faire la fête. Job, il a pris la tenue du deuil, il a déchiré ses vêtements, il a pris le sac, il est en train de se lamenter. Et à la fin, il est toujours sur son tas de cendres à se gratter. Et si vous continuez à lire l'histoire, vous allez voir que ses amis vont arriver pour le consoler. Ils vont plutôt, en réalité, l'accabler. Mais quand ils vont être là, il va passer pendant 7 jours et 7 nuits où personne ne dit rien, voyant tellement la douleur de Job est grande. Et si vous regardez ensuite le chapitre 3, Job va plonger dans une profonde dépression, ce qui est complètement normal avec tout ce qu'il a vécu, dans lequel il va dire « Maudit soit le jour où je suis né !» Et si tu es chrétien et que tu passes par la dépression et que tu es au fond du trou et que parfois tu penses à la mort et que tu dis mais Seigneur, prends-moi la vie, eh bien, en fait, ça fait partie des choses que les hommes de Dieu ont vécues. Job a vécu cela, Moïse a vécu cela, Élie a vécu cela, Jésus suait des grumeaux de sang avant d'aller à la croix. Et donc la souffrance est telle qu'elle peut nous amener aussi profond. Pourtant, même dans cette souffrance, avec des larmes et avec de la douleur, où on se dit « Mais Seigneur, je ne sais même pas si demain je serai encore là avec ma famille », eh bien Dieu peut nous donner de garder cette confiance. Malgré tout, tu restes souverain et je sais que tu ne fais pas d'erreur. Et les deux peuvent aller ensemble. Et ça veut dire que dans l'Église, nous devrions être très très prudents quand on voit quelqu'un qui passe par les épreuves et qui est abattu. C'est pas le moment d'aller faire des grandes tapes dans le dos. Ils disent « Allez, relève la tête, Dieu est souverain !» Mais non ! Oui, Dieu est souverain. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pour autant relever la tête ? On a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit de se lamenter, et la dépression fait partie de notre condition humaine. Mais malgré tout, on peut être au fond du trou et continuer à dire « Je sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que Dieu est au contrôle. » Et je crois que quand ça nous arrive, on ne doit pas avoir peur de crier notre peine et notre douleur à Dieu. Et nous devrions être les premiers à pleurer avec ceux qui pleurent, comme Jésus l'a fait. Les sanglots et le chagrin, ce n'est pas le signe de l'incrédulité. Job n'est pas un fataliste froid qui dit « c'est pas grave, Inch'Allah, tout ce que Dieu veut arrive, c'est comme ça ». Dieu n'est pas dans cette attitude. Job n'est pas dans cette attitude-là. Il a mal, il est triste, il pleure. Et c'est pour ça que sa louange est belle. C'est parce que la louange qui dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni », c'est la louange d'un homme qui pleure et qui souffre. Et c'est ce qui fait qu'elle est précieuse. C'est de dire « même si j'ai mal, même si je souffre, même si c'est dur, même si je ne sais pas si j'ai encore la force de vivre une semaine, je continuerai à dire que Dieu a plus de valeur que tout. » Et Job le dira plus tard en disant « S'il me tue, je continuerai à l'adorer. » Vous ne pouvez pas avoir de plus grande confiance dans la souveraineté de Dieu que de dire ça. Même si tu me prends la vie, tu es Dieu et je continuerai à t'adorer parce qu'en dehors de toi, de toute façon, il n'y a rien d'autre. On devrait rejoindre Dieu dans son affirmation de la souveraineté, Job, pardon, dans son affirmation de la souveraineté de Dieu, et on devrait aussi le joindre dans les larmes quand nous passons par la souffrance. Et puis nous devrions placer notre confiance dans la bonté de Dieu pour qu'il soit notre trésor et notre joie au sein même de cette souffrance. Job aurait pu dire comme le psaume, la bonté du Seigneur est meilleure que la vie. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, même s'il me tue, je continuerai à l'adorer. Au milieu des larmes, on peut continuer à voir la bonté de Dieu. Moi, je me souviens, l'an passé, mon épouse a passé 2 mois à l'hôpital, et vraiment, je ne savais pas ce qui allait se passer. Elle était, pour ainsi dire, très, très mal, et on était tous au fond du trou. Et je me souviens, un jour où j'arrivais même plus à prier, je pouvais que pleurer. Et tout ce que je faisais, c'était, je prenais un vieux cantique des ailes de la foi, et je lisais à voix haute ce chant « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. » Et il y a des fois, on n'a pas la force de prier. Mais malgré tout, je savais que dans cette situation-là, ça allait bien. Pourquoi ça allait bien ? Pas parce que j'allais bien, j'allais mal, mais ça allait bien parce que Dieu était au contrôle. Et je le disais ce matin, je me souviens de ce jour, j'étais sous ma douche et en train de dire « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Tout est bien, ma paix est infinie. » Ce n'est pas quelque chose de naturel, franchement. Il y a des fois, vous avez des petits bobos, vous n'avez même pas la force de chanter ça. Et pourtant, là, j'étais au fond du tronc et je pouvais dire « Mais le Seigneur est ma joie » et expérimenter la joie dans la souffrance. Et j'espère que si vous êtes déjà passé par la souffrance, que vous puissiez vivre cela. Et je crois qu'on peut vivre cela seulement si on est fermement convaincu que Dieu est souverain et que même les circonstances que nous sommes en train de vivre à ce moment-là, eh bien, elles contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés au salut. On connaît ce verset hein, dans Romains 8, nous savons du reste, frère, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés dans son dessein, selon son dessein. Le toute chose dans le contexte, si vous relisez les versets juste au-dessus, c'est de la souffrance dont il est question. Il est question de la création qui souffre du péché et de toutes les souffrances qui arrivent. Et ces choses-là, eh bien, concourent à notre bien et Dieu les orchestre pour sa gloire. La bonne nouvelle pour nous, c'est que contrairement à Job, on a déjà les explications, on sait quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est une bataille plus grande quand nous tenons ferme, nous faisons gagner Dieu. Et donc la souffrance du juste a énormément de valeur. Mais l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons quelqu'un que Job n'avait pas, nous avons Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans tout cela, n'est pas un Dieu qui est froid, qui est au-dessus, qui nous regarde nous dépêtrer dans la souffrance, et qui s'amuse de voir si on va donner victoire au diable en capitulant, ou si on va continuer à l'adorer. Dieu n'est pas en train de jouer ça. Dieu, au contraire, est descendu, et il est venu lui-même vivre cette réalité-là. Et Jésus, lui-même, a été tenté maintes et maintes fois d'éviter la croix. Il aurait pu l'éviter. Jusqu'au dernier moment, il a dit au Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce qu'il savait ce qu'il allait souffrir. Et pourtant, malgré tout, il a été capable de dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Jésus, sur la croix, a vécu cet abandon total où il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce cri des psaumes. Il a eu ce sentiment d'être broyé complètement par la souffrance. Mais si Jésus a fait cela, nous dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 2, l'Épître aux Hébreux nous dit, en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a pu faire cela parce qu'il savait qu'après la croix venait la résurrection, le salut, et le salut d'un peuple nombreux et cette nouvelle humanité à la gloire de Dieu. Et à cause de cela, il était prêt à supporter la croix. Et nous, de la même manière, eh bien, plus nous gardons les yeux fixés sur la fin de l'histoire, sur le ciel, sur l'espérance, sur ce que Dieu nous promet, et sur Jésus, qui est le modèle de notre foi, eh bien, de la même façon, dans la souffrance, nous pouvons dire « Ça peut dépérir, on peut m'abandonner, je peux perdre tout cela, mais Dieu reste mon plus grand bien. » Et alors, tout à coup, eh bien, Dieu sera exalté dans nos vies, et nous serons exaltés aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de l'histoire de Job, ça finit bien. Puisque Job, dans tout ça, il va passer par des luttes. Sa tentation la plus grande, finalement, ça va être de chercher à se justifier devant Dieu. Il va s'en repentir dès qu'il verra Dieu. Dieu va se révéler à lui. Et à la fin, Dieu va complètement rétablir Job. Si vous regardez le dernier chapitre, il est encore plus riche qu'avant. Et certains, dans les théologiens de la prospérité, ont dit « Oui, c'est vrai, des fois on passe par la souffrance. Mais regardez à la fin, il y a les bénédictions suprêmes. » Et je pense que ce serait une erreur d'interpréter le livre comme ça. Le Nouveau Testament nous donne un autre regard. L'Épître de Jacques nous dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Et Jacques, quand il parle de ça, il parle de la fin que Dieu va nous accorder, c'est le retour de Jésus-Christ. La prospérité de Job, on l'aura un jour, pas forcément sur cette terre. Sinon, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de Paul et de tous les apôtres qui ont fini leur vie en martyrs ? Ils n'ont pas connu la fin. Mais la réalité, c'est qu'un jour, ils seront dans la gloire, à la meilleure place près du Maître. Et en vue de cette joie, ils étaient prêts à tout laisser et à glorifier Dieu. Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit un moment, « N'ayez pas honte de mes chaînes, elles sont votre gloire. » Et il dit ça juste après avoir dit qu'il a la connaissance du mystère de Christ, que maintenant les Juifs et les païens forment un seul corps, et que du coup, dans cette nouvelle Église qui célèbre la gloire de Dieu, le nom de Dieu est glorifié devant les puissances qui entendent parler de la gloire de Dieu. Et il ajoute, « N'ayez donc pas honte de mes chaînes, elles sont votre gloire. » Quel est le lien entre ces deux choses ? Ce que Paul voulait dire, c'est Dieu est en train de faire cette église faite de juifs, de païens, de toutes les nations qui glorifient Dieu, et les puissances entendent cela, et qu'est-ce qu'elles font ? Elles se déchaînent. Et c'est pour ça que Paul est en prison, avec ses chaînes. Et les chrétiens auraient pu se dire, mais à quoi bon continuer à suivre les enseignements de ce type? Ça ne sert à rien, on laisse tomber, on a honte de lui, on part faire autre chose. Et Paul dit, n'ayez pas honte de mes chaînes, elles sont votre gloire. Mes chaînes sont en train de montrer aux puissances, aux démons, à la création entière, que l'évangile de Jésus-Christ a plus de valeur que ma liberté et que ma vie. Et toutes les fois où dans la souffrance, nous restons fidèles, eh bien en fait, c'est ce que nous proclamons. Et c'est pour ça que la souffrance du juste a énormément de prix aux yeux de Dieu. Et Dieu recueille chacune de nos larmes, elles sont précieuses, parce que chacune de ces larmes crie, plus fort que nos bouches, plus fort que nos bonnes œuvres, ces larmes dans la souffrance crient que Dieu est glorieux et qu'il a plus de valeur que nos biens et que notre vie. Et ça veut dire que si nous souffrons, injustement, à vue humaine, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ça vaut la peine et c'est précieux. Et la bonne nouvelle, c'est que de la même façon que Dieu, à la fin, vient rencontrer Job dans sa souffrance, eh bien, il veut nous rencontrer aussi. Et ceux qui sont passés par la souffrance, peut-être que vous pouvez dire à la fin, comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et moi, je peux dire que dans la souffrance, j'ai découvert Dieu d'une nouvelle façon et appris à prier d'une nouvelle façon. Parce que quand vous n'avez plus que la prière, vous êtes bien obligé de vous y mettre. Et c'est des choses qu'on apprend dans la souffrance. On va arrêter avec Job ici, et je vous propose juste une courte parenthèse avant de conclure dans le livre des Lamentations. On en parle peu, mais la réalité, c'est que parfois nous souffrons parce que nous avons fait le mal. Et c'est quelque chose qui existe aussi et qui peut être tout autant douloureux. Et le livre des Lamentations de Jérémie se trouve juste après le prophète Jérémie. Et c'est le prophète qui se lamente sur la chute de Jérusalem. Pour vous rappeler le contexte, le peuple d'Israël se détourne complètement de Dieu, ils servent les idoles, ils désobéissent, les rois sont encore pires que le peuple, ils offrent leurs enfants en sacrifice, il se passe toutes ces choses. Et finalement, Dieu leur dit, ben, vous allez être jugés. Je vais utiliser comme serviteur un peuple qui vient de loin, les Babyloniens, et ils vont être mon instrument pour exercer mon jugement. Ce à quoi les prophètes crient au scandale, parce qu'ils disent, oui, mais ils sont encore pires que nous. Oui, mais t'inquiète pas, on va les juger aussi après. Mais Dieu utilise même des peuples horribles, sanguinaires, comme les Babyloniens, pour juger son peuple quand il fait le mal. Et dans les Lamentations, le prophète Jérémie, qui est sur ce champ de ruines, eh bien, se lamente, et en fait, donc c'est un texte poétique qui en hébreu a même une rythmique de complainte avec des alternances de rites ternaires et binaires avec les lettres de l'alphabet hébreu qui ont une acrostiche qui guide des poèmes dans tout le livre. Et Jérémie se lamente, et le cœur de ce livre, on pourrait résumer le livre en disant mea culpa, maximus mea culpa, c'est totalement de ma faute. Et ça, c'est la première chose qu'on devrait faire quand on a péché et qu'on souffre et que c'est de notre faute. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois des choses qu'on va devoir porter toute notre vie. Quand quelqu'un a vécu une vie dissolue et puis qu'il a eu des enfants hors mariage et qu'après il se convertit et range sa vie et se marie à nouveau, eh bien la réalité, c'est qu'il doit assumer son passé et toute sa vie, il va devoir prendre soin de ces choses-là. On peut imaginer des gens qui ont fait des mauvais choix, qui après croulent sous les dettes. Vous avez des tas d'exemples qu'on peut donner. Et la question qui se pose, c'est une fois qu'on s'est repenti, qu'on a péché, mais qu'on doit vivre avec les conséquences, eh bien, est-ce que Dieu est là aussi pour nous? Et au cœur du livre des Lamentations, vous avez ce chapitre 3 qui est vraiment un bijou. Et vous avez le Jérémie qui à nouveau confesse les péchés de son peuple et ce qui est arrivé. Mais quand il arrive au verset 19, il crie à nouveau à Dieu, « Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Et puis, ensuite, il y a à nouveau des lamentations, parce que même parfois, quand on relève la tête, eh bien, à nouveau, on replonge. Mais le livre conclut à la fin avec cette question. Toi, Éternel, tu sièges à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu tout le temps de notre vie? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours comme autrefois. Nous aurais-tu donc entièrement rejetés? Serais-tu contre nous indigné à l'extrême? Et la suite de la Bible est là pour répondre non, Dieu n'était pas indigné à l'extrême. Il fera revenir son peuple, ordonnera un Messie, les purifiera et leur donnera cet avenir plein d'espérance dont on parlait ce matin, qu'il avait promis par Jérémie dans ce contexte. Et donc c'est un profond réconfort pour nous, si nous avons fait des choses horribles, et Dieu sait que des chrétiens ont pu en faire dans leur passé, ou même parfois en tant que chrétiens, parce qu'on peut chuter gravement, et bien si nous nous repentons, bien sûr il y a ce temps d'humiliation, de contrition profonde par lequel Dieu veut nous faire passer. Bien sûr nous avons des conséquences à porter toute notre vie, mais au milieu de tout ça, eh bien Dieu se souvient de nous, il n'est pas indigné à l'extrême au point de nous abandonner, et dans ce contexte, eh bien si nous crions à lui, il n'est pas insensible, et il veut aussi renouveler ses compassions chaque matin pour nous, et nous donner la force de porter les conséquences, y compris de notre propre péché. Et dans l'Apocalypse, vous savez qu'à la fin, Dieu essuiera toute larme de nos yeux, il essuiera pas simplement les larmes dues à l'injustice, il essuiera aussi les larmes qui ont pu être dues sur le fait qu'on pleure sur notre propre péché. Ces larmes-là aussi, Dieu les essuiera, les enlèvera. Il n'y aura plus de souffrance et plus de deuil et plus de douleur. On arrive au bout. Je suis conscient qu'il y a des choses qui ont pu bouleverser, peut-être heurter, en particulier si certains passent par la souffrance. J'espère que je n'ai pas donné l'impression de traiter ce sujet trop légèrement. Mais je vais juste terminer en priant et ensuite on pensait que si vous le souhaitez, on puisse avoir un temps de questions, soit sur des choses que j'ai abordées ce matin, soit après-midi. Peut-être un court temps, ensuite il y aura la tisane, et puis si certains veulent continuer à discuter jusqu'au bout de la nuit, je suis encore disponible, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, peut-être faire en deux temps, comme ça, s'il y en a qui veulent aussi se reposer, vous pouvez. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ce que nous avons pu voir ce matin dans ta parole, le fait que tu es souverain sur toutes les circonstances de nos vies et le fait que tu nous associes à ta victoire sur le diable au travers de nos souffrances par l'attachement que nous avons envers toi. Seigneur, tu vois combien nous pouvons être attaqués, tourmentés dans les circonstances de ce monde, de nos vies. Et Seigneur, je te prie que dans ces différentes circonstances, nous ne soyons pas tentés de te renier, mais qu'au contraire, nous puissions nous attacher à toi, confesser ta souveraineté totale, afin que tu sois trouvé vainqueur dans nos vies et que nous soyons trouvés vainqueurs avec toi. Seigneur, nous pensons à ceux qui souffrent parmi nous. Nous prions que tu les encourages, que tu les relèves. Et Seigneur, qu'au-delà des réponses, qu'avant tout tu leur fasses goûter ta présence d'une façon unique, celle que toi seul peux montrer dans la souffrance, par cette joie parfois indescriptible qui se trouve dans nos cœurs quand bien même nous serions dans le malheur. Seigneur, on va aussi avoir une pensée pour ton Église qui souffre dans le monde. On pense à nos frères et sœurs qui n'ont pas la possibilité de se réunir comme cela et qui souffrent pas simplement la maladie, la famine ou la pauvreté, mais qui souffrent la persécution pour ton nom. Et on te prie aussi que tu leur donnes d'être ferme, d'être fidèle et de croire en ta totale souveraineté dans ces situations. Seigneur, que tu les gardes du diable qui veut les faire vaciller et qu'au contraire, ils puissent résister ferme dans la foi jusqu'au jour où tu les prendras dans la gloire. Merci parce que tu es un Dieu bon, puissant, souverain, et que même quand tu permets quelque chose qui semble nous faire du mal, Seigneur, tu n'es pas là pour nous blesser. Tu es un Père qui est bon, qui est aimant et qui veut notre bien, qui veut des projets de bonheur pour nous et qui nous prépare une surfin. Et Seigneur, nous voulons voir ce surdébarquement au bout de la traversée, apprendre à le voir de plus en plus, toujours plus, pour qu'on se détache des choses de ce monde et qu'on garde les yeux fixés sur toi en toutes circonstances. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques.